love me. I'm so Il est 21h, passé de quelques minutes. Nous sommes toujours en différé façon puzzle sonore et à peu près dans les conditions du direct depuis les studios résistants d'Ingrand Le Fresne sur Loire. Une année chasse l'autre, mais elle conserve son lot viral. Cependant, j'ai une bonne nouvelle, et pas que pour Linda. Cette année, nous allons commémorer l'anniversaire d'un événement bien spécial. Alors, si je vous dis Hervé Lecor, Jacques Tardy, Jean Vautrin, Louise Michel, vous pensez à quoi ?
La Commune !
Eh oui, cette année, c'est le 150e anniversaire de la Commune. Alors, si nous avons un conseil à vous donner, c'est révisez bien vos gammes, apprenez les chants de la Commune, instruisez-vous, indignez-vous, mais avec culture et intelligence. Vous êtes toujours en France et vous êtes bien à l'écoute de Radio G sur le 101.5 FM. Vos habituels complices de presque toujours sont avec vous. Linda, Luc, Toups et votre serviteur zélé Julien. Bonjour les amis.
Bonjour à tous. Bonjour, bonsoir.
Bonjour Julien. Bonjour à tous.
C'est l'heure de Calibre 58, une émission de bien mauvais genre et qui entend vous sortir du noir. Maintenant, générique maestro. Je pense que cette phrase prémonitoire de Sean Connery va nous accompagner toute l'année. Elle est issue d'un film d'aventure au Maghreb au début du XXe siècle, Le Lion et le Vent de John Milius. C'est disponible en DVD aux éditions Rimini. Alors, nous vous avions préparé une petite émission la quinzaine dernière en compagnie de nos amis imaginaires, Romain et Jean-Hugues. Malheureusement, j'ai rencontré un petit souci technique. Nous retrouverons cependant dans cette émission-là Jean-Hugues pour une double chronique et Romain pour un choix musical en hommage à notre invité du jour, Claude Gaillard. Il faut savoir que Romain est un inconditionnel de Claude Gaillard, de ce qu'il écrit et du cinéma qu'il aime, entre autres. Je me tourne maintenant vers Linda et Toups. Bonne année les amis. Qu'est-ce que vous pouvez souhaiter à nos auditeurs ?
Oh, la colle ! De la liberté, tiens.
Ben oui, beaucoup de ruses et d'astuces pour la fin de cette mascarade qui n'a que trop duré.
Les mascarades durent trop longtemps, on est bien d'accord.
Les mascarades les plus courtes sont les meilleures, c'est ça ?
C'est une blague mascarade ?
Bon, on va peut-être enchaîner.
Oui, on va enchaîner, je fais un truc avec tout ça. Alors, pour moi, l'important, c'est la santé. Je la souhaite à quelques politiques que je ne citerai pas, mais qui se reconnaîtront. S'ils veulent s'y rendre spontanément, on peut rêver. On est en 2021, après tout. Je leur rappelle l'adresse, 42 rue de la Santé, 75 014, Paris. Mais relançons le magnétoscope, c'est l'heure de l'interview VHS de Claude Gaillard. Nous allons maintenant écouter le spécialiste du film de genre. Claude Gaillard vient de faire paraître chez Omake Books une anthologie de la contrefaçon au cinéma sous le titre intrigant « C'est presque pareil ». C'est paru dans la collection Omake VHS et pendant près de 200 pages, vous pourrez découvrir l'imagination fertile de réalisateurs, scénaristes et producteurs à partir d'une matière auparavant originale et qui donc ne l'est plus. Et oui, comment faire de l'inédit avec ce qui déjà a eu du succès et avec comme composante l'idée d'allécher le client avec quelque chose qui ne sera pas pareil à ce qu'il attend. C'est à cette équation interrogative que Claude Gaillard répond à travers cet ouvrage sans prétention, érudit et richement illustré. La maquette fleure bon les années 1970 avec son texte dense et serré. La tonalité est placée sous le sceau du jeu de mots et de la tromperie. J'en veux pour preuve cette préface inédite d'un certain James Cameron. Mais vous verrez qu'il y a plein d'idées pour des soirées résolument inoubliables. Vous serez, quoi qu'il arrive, des grands gagnants. Ou vous aurez vu un chef-d'œuvre mémorable, ou un nanar du même genre. À une époque où la culture touche le fond par l'entremise des politiques, pourquoi ne pas toucher le fond avec elle, mais en y prenant du plaisir ? Qu'est-ce qui vous fascine dans les contrefaçons ?
Moi, je viens donc du sud de la France, d'une petite ville qui s'appelle Montélimar. Et au début des années 80, à Montélimar, il y a un seul vidéoclub. Et pour toute la ville. Et dans ce vidéoclub, il y a pour chaque film une cassette. Donc, évidemment, quand on se pointait au vidéoclub et qu'on demandait les Dents de la Mer, les trois quarts du temps, la cassette était déjà sortie. Il fallait la réserver pour trois ou quatre semaines, en fait. Et le gérant du vidéoclub, qui était très commerçant, disant les Dents de la Mer, c'est dehors, mais c'est pas grave, tu prends la mort au large, c'est presque pareil. Et du coup, voilà, j'ai découvert ces copies de films, en fait, ces films inspirés d'autres, souvent avant même d'avoir connu les originaux. C'est-à-dire que j'ai écrit 10 livres sur le cinéma, donc je sais que Les Dents de la Mer a été fait avant La Mort au large, mais je dirais, d'un point de vue émotionnel, dans mon petit cœur d'enfant, j'ai toujours l'impression que La Mort au large a été faite avant Les Dents de la Mer, parce que moi, je l'ai vu avant.
Qu'est-ce que ce cinéma bis, voire terre, a de fascinant et que dit-il de nous ?
Ce que ça dit de nous, c'est que de toute façon, quand on aime quelque chose, quand on a aimé un film, il y a deux façons d'en voir plus. Voir une suite, lorsqu'il existe des suites, ou voir des films du même genre. Donc en fait, ce cinéma-là, ce cinéma dit d'exploitation, il répond à une demande du public, qui est celle-là. Et puis ça répond également à des questionnements commerciaux. Le cinéma, c'est un art, mais c'est aussi un commerce. Donc quand quelque chose fonctionne, on le refait. Ça se passe de la même manière dans la musique. Quand un groupe fonctionne, toutes les maisons de disques vont signer des groupes avec un son approchant. Ça se passe de la même manière dans mode, hein, quand une marque sort des baskets rouges et qu'elle en vend, toutes les autres marques vont faire des baskets rouges.
Pourquoi explorer ce filon ?
Oui, enfin tous les coups sont permis. De toute façon, pour profiter d'un filon, tous les coups sont permis. Donc c'est voilà, on fait des reboots également, on fait tout un tas de choses. Enfin, tout ça c'est des étiquettes, mais ça finalement ça existe depuis le début du cinéma. Ou presque. Le cinéma d'exploitation, on est vraiment sur l'exploitation de recettes, en fait. Donc encore une fois, effectivement, c'est toujours l'idée, ça m'a plu, Rambo m'a plu, je veux en voir plus, je regarde Rambo 2, Rambo 3, et puis je regarde aussi les films qui copient Rambo, parce que ça m'intéresse. Et même si je suis tout le temps déçu, en fait. C'est ça qui est un petit peu magique dans notre rapport au cinéma, surtout à l'époque des vidéoclubs, c'est qu'honnêtement, on voyait des mauvais films, et on en voyait beaucoup des mauvais, mais on y revenait à chaque fois.
Vous continuez d'arpenter la contrefaçon chez Omake Books, n'hésitant pas à aborder le porno et le cyborg, deux visions désincarnées de l'humain. Pourquoi est-ce que ça vous intéresse ?
Pourquoi vous considérez que le porno est une vision désincarnée de l'humain ? Enfin, je sais pas. J'ai pas cette impression-là. Moi, ce qui m'a intéressé dans le cyborg, c'était dans les androïdes et les cyborgs, c'était qu'on est aujourd'hui sur les thématiques du transhumanisme, qui sont des thématiques qu'on retrouve beaucoup dans la société actuelle. Il y a beaucoup de magazines qui en parlent. À la télévision, on en parle aussi beaucoup, principalement à cause de l'intérêt des GAFA pour le transhumanisme. Et ça m'intéressait de voir comment on avait pressenti, annoncé cette époque-là dans le cinéma et surtout dans le cinéma populaire, parce que je pense que assez bizarrement le cinéma populaire parle, et la série B en particulier, la série B américaine parle beaucoup plus des thématiques, beaucoup mieux des angoisses de nos sociétés que le cinéma hollywoodien. Donc c'est ce qui m'a intéressé en fait sur la question des androïdes et des cyborgs. Pour ce qui est du porno, c'est encore autre chose finalement. Ce qui m'intéressait, c'était le rôle fonctionnel du cinéma cinéma porno dans notre société. C'est surtout à une époque où on n'a jamais consommé autant de pornographie, mais que c'est une consommation qui n'est pas visible. C'est-à-dire qu'on a une société qui devient de plus en plus puritaine, mais on consomme la pornographie sur du smartphone, chez soi, sur Internet. On a un rapport très intime aujourd'hui avec la pornographie. Alors qu'il y a quelques années, il fallait quand même sortir de chez soi, il fallait aller dans les salles spécialisées, dans les vidéoclubs. Et du coup, la pornographie, elle s'affichait. C'était quelque chose qui était visible. C'est un bouquin qui s'appelle Rayon X, qui était une enquête justement sur l'explosion de la pornographie dans les années 80, en particulier grâce à la VHS. Et c'est vrai qu'on a interviewé beaucoup de gens, des gérants de vidéoclubs, même des bureaux presse-tabac qui faisaient aussi, qui avaient aussi des rayons de cassettes à emporter, et tous nous expliquaient finalement les stratagèmes de la clientèle pour ne pas avoir à dire voilà, je loue une cassette porno. Donc les mecs arrivaient avec une pile de cassettes et au milieu il y avait un porno, et de la même manière, voilà, ils mettaient lui dans le Figaro plié, et puis voilà, ça passait comme ça à la caisse.
Comment expliquez-vous cette passion pour les cinémas de genre? J'imagine que vous connaissez les Cranios Monsters et que vous faites la différence entre contrefaçon, pastiche et parodie.
Alors tout ça, ça va être une question de degré en fait, parce que même dans le terme donc de contrefaçon, j'ai envie de dire qu'il est un petit peu extrême. Il n'y a pas de plagiat pur et dur ou très très peu dans le domaine du 7e art. Il y a des films qui s'inspirent d'autres, qui copient des scènes, qui copient des thématiques, des scénarios, mais il n'y a pas de, c'est-à-dire des contrefaçons triple A. Effectivement, il y a des films qui vont aller vers la parodie. Alors, la parodie, c'est encore un petit peu spécial parce que c'est quand même une sorte de copie un peu tolérée. Pour vous donner un ordre d'idée, le droit d'auteur français autorise le pastiche. Donc c'est une façon de copier sans prendre trop de risques. D'ailleurs, ça explique d'ailleurs la quasi-impunité qu'ont eu tous ces gens qui ont fait des copies porno de grands succès hollywoodien. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu des cas, enfin, pour le coup là, c'est un petit peu différent, mais il y a eu la copie de Tarzan qui avait été fait en Italie, qui s'appelle Tarzan X, je crois, en France. Il y a eu des gros problèmes avec la censure, mais avec les ayants droit du livre, en fait.
Honnêtement, c'est presque pareil. C'est totalement pas pareil. Vous pouvez nous dire à quel point les contrefaçons sont différentes des produits dont elles abusent?
Oui, effectivement, c'est presque pareil. D'abord, c'est le premier livre original sur la contrefaçon. Après, pour répondre à votre question, je pense que y a ce qui est intéressant, enfin, du moins, ce qui m'intéresse le plus, moi, c'est les copies qui transposent des thématiques ou des propos dans des cultures différentes. Il y a des pays qui se sont spécialisés, comme la Turquie, qui transforment, en fait, les films hollywoodiens en films turcs. C'est-à-dire qu'ils vont prendre Rocky, ils vont faire un Rocky turc. Alors, évidemment, c'est pas quelqu'un d'origine italienne aux États-Unis, mais c'est quelqu'un d'origine turque en Allemagne. Ils divergent finalement avec leur propre culture les films. On pourrait aussi parler de l'Italie, qui a vraiment développé comme ça un goût et une compétence pour la contre-attaque. Finalement, au cinéma, l'Italie, c'est comme au foot. Tout est dans la contre-attaque. Donc, il y a un succès hollywoodien, on le prend, on le digère, sauce italienne, et on en fait autre chose, en fait. Et ce qui m'intéresse, c'est que finalement, ils font des... Alors, c'est ce que vous disiez, c'est pas du tout pareil. En fait, moi, ce que je préférais le dire autrement, en disant qu'ils font des copies qui sont reconnaissables. Vous pouvez regarder un film et vous dire, mais ça, c'est un film turc, ça, c'est une copie italienne. Voilà. Donc, ils ont une façon unique de faire des copies.
Est-ce que vous pouvez nous raconter ce James Bond 007 et demi?
Ah, c'est Wang Wang. Alors, c'est un acteur effectivement qui avait un physique extrêmement particulier, qui est vraiment tout petit, et qui va connaître une sorte de carrière un peu folle à travers donc deux films d'espionnage et puis d'autres films qui sont beaucoup moins connus. C'est quelqu'un qui, bon, de mes souvenirs de personnes qui fréquentaient les vidéoclubs, ça m'avait pas énormément marqué. Mais c'est vrai qu'avec l'avènement d'une cinéphilie un petit peu particulière, c'est-à-dire qui a commencé aux États-Unis à la fin des années 80, des choses comme Mystery Science Theater, ou qui s'est développée ensuite en France plus tardivement avec des sites comme Nanarland, c'est devenu un petit peu culte en fait. Voilà. Donc c'est des films un peu fous, un peu cultes. Mais entre guillemets, c'est intéressant. spécifiquement pour le côté drôlatique de l'acteur, hein, de Wang Wang, et c'est pas le James Bond qui est le, enfin la copie de James Bond qui est la plus hilarante. Enfin, c'est vraiment le film avec le frère de Sean Connery qui est absolument énorme. Hein. Opération Kill Brother, c'est un truc. C'est incroyable, quoi. Les aventures du frère de James Bond, et c'est vraiment le frère de Sean Connery qui joue le personnage, quoi.
Dans le cinéma de genre, il y a aussi tout un pan hispano-américain. Je pense au film de catch mexicain La Lucha Libre avec Blue Demon et El Santo. Est-ce que ça peut être une piste? Vous avez d'autres de ces projets en cours?
Là, non, pas vraiment, parce que là, je viens de signer chez Glénat pour un livre sur les slashers. Pour la fin de l'année, je sors un livre au milieu de l'année là, par contre, sur les adaptations de jeux vidéo au cinéma. C'était aussi un des sujets qui m'intéressait. Donc j'ai pas vraiment pour l'instant l'idée de prolonger, c'est presque pareil. Honnêtement, j'ai pratiquement au moins un point de vue iconographie, j'ai la matière pour en faire un second, hein. Et je pense qu'il y a encore beaucoup à dire. Après, ça va essentiellement se jouer sur les ventes du livre, quoi. Puisque un éditeur, il peut partir sur une suite si le livre s'est bien vendu. Après, on faut voir qui est en face, on verra.
Vous nous proposez un film de contrefaçon à voir?
Oh, il y en a plusieurs, il y en a trop. Bon, je dis, moi, j'aime bien l'un et l'autre. Le E.T. espagnol, parce que c'est un truc absolument... En fait, on peut pas le raconter, c'est inexplicable. C'est une espèce de... Ils ont remplacé l'extraterrestre par un comique dans un sorte de pyjama collant. C'est un film complètement fou. C'est une bouffée délirante couchée sur pellicule, donc ça, c'est à voir. Je pense qu'il faut avoir vu quelques films turcs, hein, parce que le deuxième Rambo turc, Rampage, il y a quand même des passages. On est quand même dans... C'est des moments de grâce absolue, hein. À ce niveau-là, c'est pas, je sais pas si, pour, voilà, c'est, on est à la frontière du chef-d'œuvre. Je sais pas si j'ai vraiment besoin de conseiller. Je pense que les gens doivent regarder les visuels et se dire, allez, j'y vais.
On va écouter quoi comme musique maintenant?
Non, je l'ai pas préparé, je vous cache pas, parce que c'est un peu tendu en ce moment. Mais si vous pouvez trouver, la bande originale de New York 1997 de John Carpenter, le thème principal.
been a bad year. Next one will probably be worse.
On ne s'en lasse pas. Vous écoutiez le thème principal de New York 1997, le film d'anticipation de John Carpenter. Il faut savoir que cette musique a été écrite à la fois par John Carpenter et par Alan Ovars. Un choix musical qui ne déplaira sûrement pas à nos amis imaginaires en général, et à Romain et Jean-Hugues en particulier. Nous retrouvons d'ailleurs Jean-Hugues pour une double chronique. Il nous parle de la série Blacklist réalisée par John Bokenkamp pour la chaîne américaine NBC, et du roman Le dossier Arkham d'Alex Nikolavitch aux éditions Léa, juste après un petit générique que vous devez bien connaître si vous écoutez alternativement nos deux émissions le mardi soir à 21h
sur les 101.5
FM de
Radio G.
Radio G tous.
Chers auditeurs du 101.5, bonjour. Parlons un peu série et penchons-nous sur Blacklist, une série à succès américaine qui mérite notre attention à tous. Elizabeth Reed, dit Liz, est une jeune profileuse qui va rentrer au FBI le jour même. Sa matinée commence chez elle en compagnie de Tom, son instituteur de mari, qui s'avérera très vite un peu plus alternatif qu'il n'en a l'air. Peu de temps auparavant, Red Reddington, l'un des hommes les plus recherchés par le FBI, s'est constitué prisonnier au QG de l'organisation fédérale dans une scène qui restera gravée dans ma mémoire. Emprisonné en mode Hannibal Lecter, Red Reddington explique qu'il a en sa possession une liste noire des plus grands criminels du monde, dont certains restent inconnus des autorités fédérales, et que lui-même, légèrement repenti, est prêt à partager cette liste de stars à la seule condition que son contact soit Elizabeth Reed, et ceci de manière exclusive. C'est de cette manière que, s'apprêtant à rejoindre son lieu de travail pour sa première journée, Liz voit son immeuble totalement cerné par un dispositif policier colossal qui fera s'interroger Tom en mode « Et tous les matins ça va être comme ça ?» La série va donc explorer un fil conducteur axé sur les rapports entre Red et Liz, avec des dégâts collatéraux tout à fait réjouissants. Chaque épisode, à quelques rares exceptions près, correspondra à un numéro de sa liste noire. Les enquêtes sont bien menées, avec des ramifications tentaculaires assez étonnantes. Les organisations que fréquentait Reddington n'étant pas toujours extrêmement heureuses de savoir Red dans les mains du FBI, tout ne sera donc pas simple. Une équipe spéciale va être mise en place dont le chef, pragmatique, appréciera la qualité des affaires résolues par son équipe, dont feront partie Liz, Ressler, un agent qui a chassé Reddington durant 10 ans sans aucun succès, l'agent Mehra Malik et l'informaticien génie de la bande Aram Mojabai. Les personnages acquièrent une densité tout à fait amusante au fur et à mesure des épisodes variés et parsemés de coups de théâtre souvent stupéfiants, et ceci dès le premier épisode. La série comporte aujourd'hui 7 saisons et se terminera définitivement en 2021 dans la 8e. J'ai lu avec grand plaisir le dossier Arkham d'Alex Nikolavitch, que je lis donc beaucoup en ce moment après les canaux du mi-temps, qui m'avait laissé une très bonne impression. Arkham, comme vous devriez tous le savoir, est une ville imaginaire inventée par Howard Philip Lovecraft, située entre Boston et Salem, bordée par la rivière Miskatonic, et dont l'université possède un département occultisme de haute volée. Alex Nikolavitch maîtrise le canon avec maestria pour le détourner complètement en un pastiche second degré tout à fait réjouissant. Un homme meurt en hurlant dans sa chambre. On le retrouve éventré dans la pièce hermétiquement close, et les deux policiers sortent de Dupont et Dupont concluent au Suicide. Le ton est donné, l'ouvrage se lit d'une traite, parsemé de calembours, de références multiples et parfois bien cachées, de publicités délirantes, de photos, d'illustrations, de facsimilés destinés à rendre l'histoire dans son entière véracité. Un très agréable moment à ne pas rater, n'hésitez pas à aller voir sur le site Calibre, où vous trouverez ma chronique détaillée de l'ouvrage.
Nous écoutons maintenant, d'après les conseils avisés de Romain, la séquence 16 de Manaos de Fabio Frizzi, un choix qui devrait plaire à Claude Gaillard. Maintenant l'heure de nos chroniques habituelles. Nous allons d'abord écouter la chronique « On achève bien les chevaux » de Luc. Il s'intéresse ce coup-ci, parce qu'il m'aime beaucoup, à un livre qui s'intitule « Aryun Paa et le fils du policier » d'un auteur imprononçable, Matti Iriana Johansson, disponible chez Folio Policier.
Ça s'appelle pas « On n'achève pas les chefs-d'œuvre » ?
Ça s'appelle en effet « On n'achève pas les chefs-d'œuvre ».
D'accord.
Les classiques, d'ailleurs.
Cap au nord, pour une fois les amis, et le nord, le vrai. Cap vers la Finlande avec ce petit polar de Matti Iriana Johansson, publié dans la série noire en 1983. Vous pensiez que le polar nordique, c'était la révélation dans le monde du polar depuis quelques années ? C'est manqué pour le moins de jugement et de curiosité. Vous croyez que vous en aviez fait le tour après avoir lu Camilla Läckberg, Joe Nesbø ou Arnaldur Indridason ? Et Enik Mankell, et Mage Cheval, et Pierre Wallo, vous en faites quoi ? À la trappe ? Dans les oubliettes ? Eh bien oui, avant ces nouveaux auteurs, sur lesquels j'ai la plus grande réserve quant au réel talent, il y a eu une véritable école du polar nordique. Dites-moi, le polar aurait-il aujourd'hui cette physionomie sans le commissaire Martin Beck, ou sans son héritier Kurt Wallander ? Alors oui, aujourd'hui du polar et du nordique, s'il vous plaît. D'accord, tout est imprononçable avec les gens du Nord. Déjà dans le roman dont je vais vous parler, le nom de l'auteur, Matti Iriana Johansson. Quant au titre, Aryun Paa et le fils du policier, c'est pas beaucoup mieux. On croirait presque un titre d'un roman de Arto Pasilina. Aryun Paa, c'est l'inspecteur de police. Onerva Nikanen, c'est sa collègue. Et puis il y a Léo et Michael. Léo, l'adolescent perdu dont le père est policier et violent. Michael, presque adulte, qui vit en HLM avec une mère en voie de perdition. Léo est impressionné par Michael, par sa capacité à transgresser. Tout tous deux boivent de l'alcool, beaucoup d'alcool. Un jour, ils tabassent un homme à qui ils demandent du feu pour allumer des cigarettes. Ils le laissent pour mort. Il ne décédera que quelques temps plus tard à l'hôpital. C'est la transgression ultime et Léo est terrorisé par ce geste. C'est Arjumpa qui est chargé de l'enquête. Arjumpa, c'est un inspecteur qui nous est presque familier. On pourrait le rapprocher justement de Martin Beck ou de Kurt Wallander, déjà cité. Et il n'est pas non plus si loin que ça de Harry Bosch, de Michael Connelly. Il conduit l'enquête à sa façon, prend des risques, s'oppose à sa hiérarchie. Il peut compter sur Onerva, son indéfectible collègue. Michael et Léo volent une voiture. S'ensuit une poursuite dans le plus pur style américain. Léo est interpellé, mais Michael arrive à s'échapper. Léo est à nouveau tabassé par son père et cette fois fugue définitivement. Il retrouve Michael qui, grisé par leur premier meurtre, décide d'en commettre un second. Leur victime sera choisie au hasard. Après ce second meurtre, tous deux se réfugient dans un tunnel abandonné. Mais la traque se resserre et l'issue est sans surprise. L'intérêt de ce roman policier écrit en 1983, c'est ce courant sociétal du polar. La société finlandaise qui nous est montrée décrit une jeunesse en perdition, désocialisée, violente et imbibée d'alcool. La séquence dans un parc où Arjumpa va, dans le cadre de l'enquête, à la rencontre d'un groupe de jeunes désœuvrés est terrifiante. Ils sont jeunes, très jeunes, pour certains même pas 15 ans, mais la police ne les impressionne déjà plus. Et quand il décide de brutaliser Arjumpa, celui-ci ne doit son salut qu'à Onerva qui, pour le sortir du guet-apens dans lequel il s'est mis, va sortir son arme et menacer les jeunes. Mais tous les deux vont devoir s'enfuir, ou plutôt fuir. Ce climat d'errement de la jeunesse, on le trouvait déjà dans le roman de l'auteur suédois Jan Guillou, écrit en 1980, « La fabrique de violence ». Mais c'est aussi le sujet du roman de Pierre Pelot, écrit en 1977, « Le sourire du crabe ». Michael et Léo ont deux personnalités très différentes. Le système peut sembler simpliste, le presque adulte désocialisé parce qu'issu du quartier HLM et d'une famille monoparentale, pauvre, et l'adolescent, fils de flic, violent, forcément violent, et ébloui par la capacité de transgression totale de Michael. Mais la volonté de Matti Hirvonen Joensuu de décrire la société finlandaise dans ce qu'elle a de décomposé est parfaitement aboutie. Sans aucun didactisme, par le simple déroulé de l'action, il nous fait toucher du doigt la déliquescence de son pays et par extension, la déliquescence de nos sociétés néolibérales, violentes, excluantes, marginalisantes. L'errance de Michael et Léo n'est pas une fatalité, c'est le produit d'un monde gouverné par l'argent, dans lequel les plus petits, les plus faibles sont éjectés. Cela s'appelle Arjumpa et le fils du policier. C'est de Matti Hirvonen Joensuu. C'est publié dans la série noire et c'est à déguster sans modération.
Merci Luc. C'est maintenant à Linda, une fois qu'elle aura terminé son fou rire, pour sa chronique sueur froide. Et Linda, tu t'intéresses à un roman que j'avais bien aimé, c'est le cas de le dire.
C'est vrai.
Puisqu'il s'agit des Mal-aimés de Jean-François Tixier, c'est paru chez Albin Michel.
Merci de cette transition, parce qu'effectivement j'entame cette année 2021 de façon tout à fait guirette, hein, comme vous pouvez le voir. Alors d'habitude Jean-François Tixier, il écrit plutôt pour les enfants, mais là il a écrit sur des enfants et des enfants qui sont donc mal aimés, d'où le titre. Notez que vu l'état psychologique et émotionnel des adultes de cette histoire, ils n'ont pas dû non plus être aimés de façon bien terrible quand ils étaient gosses. C'est un polar rural, sans détective ni policier, mais avec une disparition, des meurtres, des secrets qui remontent implacablement à la surface chez les taiseux. Je ne vous ai pas dit, nous sommes dans un coin des Cévennes à la fin du 19e siècle, et les gens sont comme la terre, aride et rocailleux. On s'empêche de dire, de ressentir, pétrifié dans des croyances et l'ignorance comme ciment de société. Les femmes un peu plus soumises encore, hein, mais ça, je sais pas, j'ai l'impression de l'avoir déjà dit dans d'autres chroniques, non ?
C'est un poncif, c'est un poncif.
Merci. Et tout ce monde-là gravite autour du bagne pour enfants. Oui, mesdames et messieurs, vous m'avez bien entendu, un bagne pour enfants. Nous, Français, citoyens du pays des droits de l'homme, pas de la femme, et encore moins de l'enfant, nous qui ne comptions que des résistants pendant la Seconde Guerre mondiale, nous sommes bien d'accord, hein? Ah, un silence me répond. Nous qui donc ne comptions que des résistants avons été capables d'inventer cette aberration. L'auteur s'est appuyé sur des archives départementales de l'Hérault, donc ça a réellement existé. L'âge des gamins, bah, plus ou moins une douzaine d'années, leur délit, être pauvre, orphelin. Oh, bah, ils restaient pas très longtemps, hein, un an ou deux. Motif de sortie, bah, les deux pieds devant, hein. Mourir en un an ou deux à force d'être maltraité, je vous laisse un peu imaginer.
Ah oui?
Oui, le livre débute sur la fermeture du bagne. Les enfants partent, mais les murs restent avec les fantômes du passé. Guillerette, cette nouvelle année, je vous ai dit. Alors moi, je vous conseille, donc c'est paru en 2019, hein, c'est ça?
Oui, c'est
et
ça.
Et puis là, bah, c'est en poche, donc c'est assez facile à trouver.
Moi, ça me fait penser, rebondir au livre de Colson Whitehead, Nickel Boys. Et donc lui, c'est aussi un bagne pour enfants, avec donc d'un côté les enfants noirs et de l'autre les enfants blancs. Mm-hmm. Et donc, on est dans l'Amérique des années 1960, ce qui nous rapproche encore plus, ce qui est tout aussi effroyable, ouais. Avec le même constat, c'est que bien souvent, ils sortaient les deux pieds devant.
Là, en l'occurrence, ils avaient des peines de 4, 6 ans, enfin, jusqu'à la majorité très souvent, ou alors jusqu'à leurs 18 ans, mais ils n'arrivaient pas au bout, quoi.
Oui, alors quand tu disais parce qu'ils étaient enfermés parce qu'ils étaient pauvres, c'est surtout parce que la société disait d'eux qu'ils n'avaient pas de foyer, ils traînaient sur les rues, donc c'était le vagabondage, voilà.
C'est le terme qu'on retrouve quasiment tout le temps dans les extraits d'archives, qui sont en fait, à chaque en-tête de chapitre, un petit extrait d'archives avec un exemple d'enfant. Et quand je vous ai dit motif de sortie, c'est parce que c'est à chaque fois, lui, c'est ce qu'il met, motif de la sortie, décès. Alors, il y a des variantes avec ou sans parents, pauvres, ils ont chapardé, mais en général, voilà, ce sont des voleurs de pommes, ce sont des choses comme ça.
Et moi, ça me fait penser au bouquin d'Albertine Sarrazin qui date des années 70, il me semble. Ça commence par l'évasion de cette jeune fille de 14 ans, elle s'évade de cette prison pour enfants. La colonie pénitentiaire.
C'est pas l'astragale?
Ah, c'est l'astragale.
Eh bien, c'est à moi de vous faire une petite chronique post-fête de Noël avec des petits cadeaux qu'on aurait pu s'offrir ou qu'on peut s'offrir en échangeant. Je vous cause de l'apéro des tontons. C'est illustré par Patrick Matt. C'est chez Hugo Images. Alors, les éditions Hugo Images continuent d'explorer le filon Les Tontons Flingueurs en jouant sur la corde sensible des amateurs de ce film culte de Georges Lautner. Et ici, des illustrations à la limite de la caricature de Patrick Matt. Après une pléthore d'albums illustrés avec des caricatures donc en tout genre des protagonistes du film, profitant des fêtes de fin d'année, Hugo Images a concocté une petite boîte qui devrait faire fureur. Le format, il est cubique et il contient 5 verres à shot à l'effigie des héros en noir et blanc, histoire de reconstituer faussement la scène de la cuisine avec vos grands-parents et du jus de pomme, autrement appelé le vitriol. Et en cette période atypique, ça nous permet de nous sentir transgressifs parce qu'il y a 5 verres, donc on peut être 5 à table et boire ensemble, confraternité, tout ça, tout ça. Pour parachever ce cocktail sanglant et féroce, un petit livre de recettes qui mélange cocktails, comme le fameux diplomate avec vodka, liqueur de melon et jus d'ananas, apéritif, comme ces briques du Grisby avec du chèvre et du miel, réplique culte, alors il dort le gros con, et anecdote sur le film qui aurait pu s'appeler Le Terminus des Prétentieux, ce qui aurait aussi fait un bon titre. Le tout dans une jolie maquette à un prix très raisonnable, c'est idéal pour les festivités où chacun doit faire un cadeau pas cher à moins de 15 euros. Si l'on se doit de préciser que les verres à shot n'ont que pour fonction de permettre de boire d'un trait des alcools blancs, on n'en est pas moins sûr qu'ils trouveront très vite une autre fonction plus décorative sur un bureau, en avoir un c'est classe. Avouez-le, si ce n'est vous, vous avez au moins dans votre cercle proche, familial ou amical, quelqu'un à qui ce petit cadeau évoquera des souvenirs. Le temps de lire cette phrase, j'ai déjà 2 noms en tête. Mais c'est pas vous. Alors, Toups, c'est l'heure de ta chronique. Ça jazz, baby?
Ah ben ça jazz, oui. Là, j'ai envie de parler de l'alignement des planètes vues par la guitare basse. Comment Queen, en se plantant, a réussi un tube de plus? J'ai envie de parler de la guitare basse parce que...
Parce qu'il m'en a offert une pour Noël. Non, c'est pas pour ça.
Parce que... Alors, vous connaissez tous la blague du notaire qui réconcilie les causes perdues. Il y a des gens qui viennent le voir parce qu'ils veulent... c'est un couple qui veut divorcer. Et il dit, bougez pas, il va chercher sa contrebasse et il commence à faire un solo. Et d'un seul coup, le couple commence à se parler, écoute chérie, j'avais absolument besoin de te dire, en fait non mais oui, et puis d'un seul coup, ils se parlent, alors qu'ils se parlaient plus. Au bout d'une heure, ils ont fini de parler, ils vont passer à la caisse, ils veulent plus divorcer. Mais ils lui demandent, mais monsieur, quel est votre secret, comment vous avez fait? Bah écoutez, à chaque fois que je fais un solo, ça a toujours été comme ça, quoi, un solo de basse. Les gens se mettent à parler au moment du solo de basse. Alors donc ça veut dire qu'il y a aussi cette mauvaise blague de musicien. Quelle est la différence entre deux contrebassistes?
Aucune.
Un quart de temps. Alors c'est méchant. Il y a aussi le fait avéré, celui-là, que les élèves en contrebasse sont souvent des élèves qui ont été refoulés de la classe de violoncelle. Donc un problème de justesse, un problème de... Et donc la basse, la contrebasse, c'est souvent l'instrument qui est derrière la musique, qui est derrière tout le reste, qui est derrière, pour qu'on l'entende pas, qui restera toujours derrière. Il y a des instruments de premier plan et puis la basse, c'est pas un instrument de premier plan. Qu'est-ce que c'est pour vous un instrument de premier plan? Vous avez des idées?
Le saxo?
Oui, les instrumentalistes, quoi. Je pense à plein de morceaux où c'est la ligne de basse qui nous reste dans la tête. Et du coup, c'est pas un instrument devant, ça, quand c'est le cas.
Ben, la ligne de basse nous reste dans la tête, mais est-ce que c'est la ligne de basse qui reste dans la tête?
Et je garantis pas le quart de ton.
C'est dommage qu'il n'y ait pas la vidéo parce qu'on aurait vu Linda mimer en même temps le geste du bassiste et la pulsation qui est insufflée à travers les doigts de cette... Alors, moi, j'adore ce morceau-là, Another One Bites the Dust de Queen.
Qui m'a rendu, j'ai joué ça hier soir à mes enfants, là, juste cette petite ligne, ça m'a rendu populaire auprès de mes enfants pendant au moins un demi-siècle, hein, je vous dis.
Oui, parce qu'il y a un morceau qui s'appelle Cosmic Slop, là qu'on entend, en fait, c'est embedded, c'est ça? Embed. On est en train de parler par-dessus ce morceau et qui tourne autour d'une ligne de basse. Il n'y a que ça. Et effectivement, ce morceau de Queen qui tourne autour de cette ligne de basse qui fait deux mesures. Et puis on a plein d'autres exemples. Chez Michael Jackson. Prenons Bad. Prenons Billie Jean. Prenons Beat It. À partir de Smooth Criminal, si on prend Smooth Criminal, Thriller, Black or White, là, il y a quelque chose d'extraordinaire parce que Smooth Criminal, c'est quand même très rythmique. Et il y a tout le morceau axé là-dessus. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire parce que le beat en lui-même, il est très basique à chaque fois sur les morceaux de Michael Jackson. C'est toujours très très basique, mais il y a de l'inventivité et du génie dans la rythmique, du génie dans la façon dont les cocottes de guitare vont s'entrelacer et faire un morceau. Oui, du génie quand il y a Black or White, parce que alors là, là, c'est, il met une ligne de basse et la réponse avec le riff de guitare. Faire le riff de guitare, toi. Mais ça, c'est du génie. Juste la ligne de la basse qui fait ça. On revient sur Queen parce que cette histoire de... Comment en se plantant, ils arrivent à faire un tube? Ils se plantent parce qu'ils voulaient faire du disco. Ils font pas du disco. Ce n'est pas du tout du disco. Parce que ce qui caractérise le plus, si on doit résumer, Queen, une chose, c'est une extrême créativité. Donc, en fait, en voulant faire du disco, eh bien, ils n'arrivent pas à faire du disco. Ils font quelque chose de mieux que le disco, quelque chose d'autre que le disco, quelque chose de plus que le disco. Ils font du Queen. Et Queen, c'est un groupe de rock. Le rock en Angleterre, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le rock anglais a une identité. Et, comment dire, Queen ne pouvait pas se contenter de plagier un style parce que c'était un groupe de création et de créativité. Ils ne faisaient que ça. Ils ont une identité à eux. Ils ressemblaient à personne d'autre. tout en faisant penser à tous les autres. Moi, quand j'ai entendu « I want to ride my bicycle », je comprenais plus rien, je savais plus où j'étais. Parce qu'au début, tu entends une chanson pour enfants, et après, tu entends de la musique avec un grand M. C'est extraordinaire. Tout ça pour dire que la basse, comme instrument qui doit se placer derrière, qui est censé être derrière, jusqu'à ce qu'il y a des Nils Henningers, des Pedersen, des Jaco Pastorius, des Ron Carter, des Abraham Laboriel, en toute discrétion pour Laboriel, à mettre cet instrument-ci derrière, en avant, eh bien, il n'y a pas de moyen plus intéressant que de passer par n'importe quel instrument pour faire de la musique, et encore plus intéressant de prendre l'instrument qui est censé rester derrière et le faire passer devant sans que personne s'en aperçoive. Parce que tous les tubes de Michael Jackson, tous les tubes de Queen, on ne se rend pas compte que c'est en fait la basse qui est censée être derrière puisqu'il est devant. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire, je trouvais ça juste génial. Bah quoi, vous dites rien ?
Ah, on t'écoute. Où on écoute la basse, on écoute quoi maintenant?
Eh bien, écoutons...
Another One Bites the Dust.
Merci tous pour cette chronique et pour cette écoute musicale. Vous entendez ce petit générique ? C'est l'heure de notre débat DVD avec Lucky Strike du sud-coréen Kim Jong-un, sorti en 2020 et qui ressort en DVD et Blu-ray cette année chez Wildside.
Et vous êtes toujours sur Radio G au 101.5 FM.
Alors, Luc, est-ce que tu peux nous faire le pitch de ce film et nous dire succinctement ce que tu en as pensé ?
La difficulté avec le cinéma étranger, mes amis, et tout particulièrement le cinéma asiatique, c'est l'impossibilité de lire le générique, l'imprononçabilité des noms, surtout l'incapacité pour le spectateur d'identifier les acteurs, d'autant plus s'il s'agit de premiers films. Et Lucky Strike coche toutes ces cases. Mais voilà, qu'est-ce que ça fait du bien ? Lucky Strike, c'est impossible à résumer. Pour faire simple, c'est une mosaïque de personnages qui vont se retrouver reliés par le hasard. Un agent d'entretien dans un sauna trouve dans une consigne un sac rempli d'argent, sans doute abandonné. Il le cache dans la réserve de l'hôtel. Un agent des douanes véreux doit rembourser à des mafieux une somme détournée par sa petite copine qui a disparu. Une femme, prostituée dans une maison close, est tabassée par son compagnon et on arrive à vouloir le tuer. Un adolescent chinois aux cheveux teints en blond tombe amoureux de la prostituée, va vouloir assassiner le compagnon violent, mais se trompera de cible. Un mafieux prédateur ultime va se faire prendre à son propre jeu. Et comme chez Prévert, mais le raton laveur devient pour le film un tatouage sur la cuisse d'une femme. Et l'énumération pourrait continuer très longtemps. Plus que d'un film, on est devant un puzzle. Au départ, on ne saisit pas tout, mais plus le film avance, plus on comprend les enjeux et plus on prend du plaisir. On peut là parler de film choral. L'image est particulièrement léchée, les cadrages soignés. Yong Hoon Kim n'hésite pas à placer sa caméra dans des endroits plus qu'improbables. Lucky Strike est un premier film et il en a toutes les qualités. Le réalisateur ose sans complexe. Les acteurs sont véritablement dirigés et jouent juste. Mais il en a aussi les défauts. Il tombe parfois dans le maniérisme. Le réalisateur, en voulant montrer ce qu'il est capable de faire, joue trop de la virtuosité. Pas de problématique de genre pourtant ici. Les hommes et les femmes sont parfaitement répartis entre bons et mauvais. Lucky Strike se voit avec un réel plaisir. Il lui manque peu de choses pour qu'il soit totalement réjouissant. Ça ne prend pas la tête et quand il y a des déchaînements de violence, c'est toujours à la limite du grand guignol, voire du burlesque. Alors s'il fallait citer des références pour convaincre de voir ce film, on pourrait citer le Tarantino de Pulp Fiction, le Bong Joon-ho de Memories of Murder ou le Kitano de Jukatsu. Et ce n'est pas le moindre des compliments.
Et vous les amis, vous en avez pensé quoi de ce film, Linda ?
Alors, moi, je l'ai vu quand il est sorti au cinéma. Vous savez, jadis, autant jadis où les cinémas étaient ouverts. J'ai beaucoup aimé ce film. J'ai été un peu déroutée au début, pas être sûre de reconnaître les personnages, etc. Mais j'ai pas trouvé ça dérangeant, en fait, parce qu'il y a c'est un puzzle qui se monte au fur et à mesure. Et il y a des moments où il faut lâcher un peu prise et puis se laisser emmener, parce que surtout qu'il y a un rythme du tonnerre là-dedans. Ça joue super, c'est drôle. J'ai trouvé ça vraiment drôle. C'est le côté identité propre. Un film coréen qui essaie pas de faire de l'américain, qui est vraiment un film coréen, avec des recettes. Il est imprégné, il y a plein de références, on est d'accord. Mais j'ai vraiment eu l'impression que j'étais en Corée. Et ça, j'ai adoré ça. Et puis, c'est enfin, tout l'humour qu'il y a là-dedans, le dérisoire, quoi. Que les chutes, elles sont chouettes, c'est bien amené. Puis voilà, on passe un bon moment, on se laisse emmener, on trouve pas le temps long, enfin...
Je pense que, justement, c'est un réalisateur qui s'inspire, qui va piocher dans les réalisations américaines, dans le film américain, parce que moi, j'ai vu beaucoup de références, et qui, ce que tu as dit, le digère et fait quelque chose, j'ai envie de dire, à la sauce coréenne. Mmh. Voilà, donc il y aura des choses qu'on n'a pas vues ailleurs, mais quelque part, il a un côté très Tarantino. On est obligé bêtement de faire ce rapprochement.
Non, il ne fait pas du Tarantino, il fait penser à Tarantino, mais il ne fait pas du Tarantino.
Ça joue très bien.
Moi, ce qui m'a intéressé avec ce film, c'est l'effet de surprise. Il y a peu de choses qui m'agacent autant au cinéma que de pas être surpris, en fait. Moi, j'aime bien aller au cinéma pour voir quelque chose que j'aurais pas pu faire et que j'aurais pas pu imaginer. Et là, effectivement, j'étais servi parce que, voilà, après les 5 premières minutes, je me suis dit, oh là là, ça y est, et je sais ce qui va se passer. Et en fait, non. Je ne sais pas ce qui va se passer et à aucun moment je ne sais ce qui va se passer. Voilà, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime le cinéma ou la littérature et la vie de façon générale pour les surprises.
Et toi, tu l'as aimé, Julien ?
Je pense que c'est un film qui restera dans les meilleurs films noirs des 20 dernières années parce que il y a déjà tout cette culture, je te l'ai dit, américaine, qui a été ingurgitée et régurgitée autrement. Et ça, c'est... ça, c'est intéressant. C'est la preuve que c'est, le réalisateur est bon. C'est un premier film. Luc a dit qu'il y avait quelques petites imperfections. Alors moi, je ne les ai pas vues. J'aime cette idée du Pulse qui a été inventée par Tarantino, c'est-à-dire la désynchronisation. Je prends une trame chronologique, je la découpe, je mélange tout, tac, tac, et je vois ce que ça donne. Avec en plus 8 personnages à peu près qui sont dans le film. Le cinéma américain a déjà fait ça beaucoup de fois, donc on n'est pas surpris par ça, mais on est surpris, et Toubs, tu as raison, par les trajectoires des personnages. Et il faut bien l'avouer quand même que Kim Jong-un, le réalisateur, il les aime pas, ces personnages, où il les aime tellement qu'il les fait souffrir, quoi. Mmh. Et ça, c'est assez jouissif. C'est-à-dire que on se dit, il va pas faire ça. Non, il fait pas ça, il fait pire. Donc ça, c'est intéressant. Et pourtant, y a une trame, il y a quelque chose. Il le fait pas gratuitement. Et il le fait parce que, quelque part, de la scène inaugurale jusqu'à la scène terminale, il y a quelque chose, il y a un truc qui est très labyrinthique, mais il y a une histoire, elle est très linéaire. On s'en rend absolument pas compte au début, on a peur d'être perdu, on reconnaît personne, on sait pas qui est qui, jusqu'à ce que, alors moi c'est le personnage de flic quand il arrive, je le trouve extraordinaire. Pour moi c'est un Peter Falk asiatique, avec cette façon, non, mais avec cette façon qu'il a de s'introduire dans l'intimité des gens. Il arrive, il pose ses valises quoi, et il est là, il dit je m'excuse de vous déranger, mais je suis là, je vais manger avec vous et vous allez payer la note. Donc bref, je trouve que c'est un film qui est à la fois sérieux et réjouissant. Et le MacGuffin dans ce film-là, Lucky Strike, c'est ce sac Vuitton avec du fric dedans. Et puis c'est réjouissant parce que moi je l'ai regardé d'une façon contemplative. C'est assez beau, les plans ils sont, ouais, très, ils sont très bien filmés, la couleur est importante.
La photographie est très très léchée. Oui.
Alors, est-ce que vous le conseillez ce film?
Oui.
Julien, ce qui est compliqué avec les premiers films, c'est quand ils ont des qualités, et Lucky Strike en a beaucoup, parce qu'on veut leur laisser une chance. Et ce film mérite d'avoir sa chance, parce qu'il est sorti en plein confinement. C'est un très bon film avec un réalisateur prometteur, mais il a des défauts. Le scénario est très stéréotypé. Une fois qu'on a compris la mécanique, le film perd un peu de son intérêt. Par sa fin plus que morale, il est loin d'être aussi pervers qu'il n'y paraît. Mais vraiment, à ce stade, ce ne sont que scories. Alors moi, j'en redemande.
Eh bien, merci. C'était Lucky Strike de Kim Jong-un. C'est disponible chez Whiteside. Je vous rappelle l'anthologie de la contrefaçon au cinéma. Elle s'appelle C'est presque pareil. Elle est signée Claude Gaillard chez Omake Books. Pour retrouver le sommaire de l'émission Calibre 58, deux adresses, le site de Radio G et sa page dédiée à notre émission, et la page Facebook Calibre 58. On vous dit à dans 15 jours et on vous abandonne lâchement entre les mains de nos amis imaginaires la semaine prochaine. Salut les amis, encore merci.
Destruction, the eve of destruction, the eve of destruction, the eve of destruction, the eve of destruction.